midi 30, 14h.
La France bouge avec Raphaël Duchemin sur Europe 1.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Ma mission, vous la connaissez, vous montrer chaque jour qu'il y a en France, dans nos villes, nos villages, nos entreprises, nos associations, des idées qui se mettent en place pour changer les choses et construire la société de demain. Gros plan aujourd'hui sur la chaussure. Nous en portons tous, mais de nouvelles marques apparaissent avec, vous allez le voir, une nouvelle philosophie pour relancer la filière France. Elle est née en Savoie en 1821. Dolin Vermouth est aujourd'hui l'entreprise qui va bien, merci. Et puis donner les clés de l'apprentissage numérique à nos enfants, c'est possible. La solution s'appelle School avec un Q. Et c'est la France qui bouge, c'est sur Europe 1.
Europe 1.
39-21, vous avez la parole. Venez nous dire comment, par exemple, vous choisissez vos chaussures, Anissa.
Oui, faites-vous attention à la provenance de vos chaussures. Sont-elles françaises, vos chaussures, aujourd'hui? Venez nous le dire sur Twitter avec le hashtag Europe 1 ou au 39-21. Vous pouvez poser toutes vos questions aux invités de Raphaël Duchemin grâce au standard. C'est 50 centimes la minute.
Et vous l'ignorez peut-être, mais Romans a longtemps été le haut lieu de la chaussure. Eh bien, la semaine dernière, la cité de la chaussure a rouvert ses portes là-bas, dans la Drôme. Alors, on a eu envie de vous montrer qu'il y a, oui, en France, une vraie filière qui est en train d'être relancée. Pour accueillir nos invités, comme chaque jour à mes côtés, elle est là, c'est Elisabeth Assayag. Bonjour.
Bonjour Raphaël et bonjour à tous.
Et notre coach, le fondateur de Blablacar, Frédéric Mazella, est avec nous. Bonjour Fred.
Bonjour.
Qu'elle soit plate, à talons, avec ou sans motif, on a tous besoin de chaussures. Mais dans une société où tout le monde veut être différent, avoir quelque chose qui ne ressemble pas à l'autre, eh bien la personnalisation a pris le pas, si j'ose dire, sur nos souliers. Bonjour Antoine Fokker.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Ancibopa, la première marque personnalisable de chaussures artisanales manufacturées à Romans, oui. Justement. Vous vous êtes lancé en avril 2017. Vous n'étiez pas du tout dans le monde de la chaussure, mais vous avez eu un déclic lors d'un voyage en Italie.
Exactement. En effet, je ne suis pas du tout issu de ce monde de la chaussure. Je suis pas artisan moi-même, je ne suis pas styliste. Et en fait, ce projet, il est né d'une rencontre. Je suis parti en vacances quelques jours au sud de Naples avec ma femme et on est rentré un peu par hasard chez un petit artisan chausseur qui fabriquait une magnifique sandale totalement personnalisable. Vous pouviez choisir les cuirs, les talons. Et tout ça a été fait en 2 heures pour vous. Et donc, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce travail et ces artisans. Et je trouvais que dans un monde qui est de plus en plus industrialisé, de plus en plus standardisé, c'était quelque chose d'assez phénoménal d'avoir un artisan qui prend le temps de se mettre à votre disposition pour créer une chaussure qui est réellement unique et qui est faite à la demande pour vous.
Alors, c'est très bien de se dire que c'est formidable, mais après, il faut passer à la réalisation. Comment est-ce que vous avez fait pour rapatrier l'idée en France et vous lancer?
Alors, c'est vrai que Romans est très connu pour la qualité de son savoir-faire. Malheureusement, la ville a souffert aussi ces dernières décennies. J'ai pu retrouver quand même sur place des gens qui avaient gardé ce savoir-faire exceptionnel. Et on s'est dit que si on voulait reproduire en France, il fallait apporter un service différent, ne pas produire des séries. Et donc, on est parti sur cette idée, en effet, de faire une chaussure artisanale, puisqu'on travaille donc en direct avec des artisans chaussures de Romans, personnalisable, puisque pour chacune des chaussures, l'artisan en fait met à votre disposition ses mains d'or pour créer une chaussure sur laquelle vous allez vraiment tout choisir. Votre cuir, vos couleurs, vos talons, et tout ça distribué en vente à domicile.
Donc on vient sur votre site par exemple, où on vient vous voir, où on demande à ce que quelqu'un vienne nous voir puisque c'est en vente à domicile, et on choisit tout ça. Ça permet aussi de ne pas avoir des erreurs de pointure, parce que parfois, même si on fait du 38, quand on met le pied dans le soulier, ça ne se passe pas forcément bien, le gabarit n'est pas le bon. Là, vous pouvez intervenir.
Alors, en fait, on a fait le choix de la vente à domicile justement parce que Internet peut pas tout. Internet, c'est compliqué d'acheter une chaussure à distance. C'est compliqué aussi de pouvoir... Une chaussure, ça s'essaye, un cuir, ça se touche. Et donc, on a fait le choix de la vente à domicile pour apporter un vrai service personnalisé haut de gamme. Et en effet, on vient chez vous avec une ambassadrice, un kit de démonstration. Et on va vous expliquer qui sont les artisans qui travaillent avec nous. On va vous faire toucher les cuirs et on va vous faire essayer les modèles pour concevoir avec vous la chaussure vraiment qui va vous ressembler.
Elisabeth, elle se porte comment, notre chaussure française, aujourd'hui?
Eh bien, il était temps de la réinventer. Hein. Il était temps de revenir à Romans-sur-Isère, parce qu'en 2017, le chiffre d'affaires de l'industrie française de la chaussure, hein, je ne parle pas des ventes de chaussures, mais cette industrie hein, qui nous est propre, elle chutait de 4,5% à 828,4 milliards d'euros. Ce sont des chiffres du Conseil national du cuir.
Et pourtant, il y a quelques belles endormies qui sont en train de revenir en
et
force.
Oui, et heureusement. Par exemple, tiens, la marque Carel,
oui,
hein, c'est une marque que nos mamans, nos grands-mères portaient, hein, très chic. C'est une marque française fondée en 1952. Depuis 2010, son chiffre d'affaires a doublé. Pourquoi ? Parce que c'est une marque qui a été rachetée il y a 8 ans par une femme qui s'appelle Frédérique Picard, qui a su mettre en avant des chaussures jolies et surtout confortables, hein, notamment avec des fameux talons trotteurs de 5 cm. Aujourd'hui, on préfère le confort à des talons perchés, au fameux stiletto. Aujourd'hui, la plupart des chaussures sont fabriquées en Espagne parce que la majorité des ateliers ont disparu. C'est aussi pour ça qu'il y a cette ouverture de la cité de la chaussure à Romans-sur-Isère. Mais par exemple, chez Carel, il y a un modèle qui s'appelle le Marquis qui est toujours produit dans les Vosges. Il y a un fabricant français qui fait figure d'exception. C'est Robert Clergerie. Alors eux, ils ont vendu la marque à un fonds chinois en 2011. Mais ils ont verrouillé la fabrication pour qu'elle reste dans l'usine de Romans-sur-Isère.
Que dit notre coach de cette aventure de la chaussure personnalisable lancée par un si beau pas ?
Je pense qu'il y a effectivement un bon angle, parce qu'effectivement, on a besoin de personnalisation dans un monde extrêmement standardisé. En revanche, après, au niveau de l'activité et de l'économie de la chose, surtout à l'échelle, je me demande comment on passe à l'échelle. Je voulais savoir combien vous aviez d'ambassadrices et comment ça marche. Alors, les ambassadrices viennent chez nous ou chez vous et présentent les chaussures. Et en fait, le modèle fonctionne comment ?
Alors aujourd'hui, j'ai une quinzaine d'ambassadrices à travers la France. L'objectif, c'est qu'on arrive rapidement à 50. En fait, je leur mets à disposition un kit de démonstration où on va avoir nos différents modèles du 36 au 41 pour que chaque client puisse vraiment mettre son pied dans une chaussure, valider le confort du chausson, qui est un de nos gros points forts, parce qu'on a une mousse à mémoire de forme dans chaque chaussure. Et ensuite, accompagner le client dans le choix de ses options de personnalisation. On récupère toutes ses commandes. Et on va travailler vraiment à la paire, à la demande. Il n'y a aucun stock, il n'y a aucune matière gâchée avec ces artisans pour que vous ayez votre chaussure personnalisable en 3 semaines.
Et vous avez combien d'ambassadrices alors qu'elles parcourent toute la France ou comment ça se passe?
Alors aujourd'hui, on en a une quinzaine. On est plutôt implanté dans le sud-est de la France, puisque moi, je suis originaire de Salon de Provence. Mais l'objectif, clairement, c'est de recruter. Donc je profite pour passer un petit message. On recrute aujourd'hui des ambassadrices sur toute la France. Si vous avez envie de faire ce métier en complément d'activité, en activité principale, si vous avez envie de vous faire plaisir à temps choisi, on recrute sur toute la France.
Moi, je voudrais savoir, vous parlez des ambassadrices, vous parlez de vos chaussures. Il y en a combien aujourd'hui qui sont produites dans vos ateliers? Comment
alors,
ça se passe?
Alors, sur la dernière année, on a fait à peu près 1000 paires. L'objectif, c'est de tripler la production cette année.
Oui.
On travaille avec des
ateliers.
Donc, 3000
paires d'ici la fin 2019.
Voilà. On travaille avec des ateliers aujourd'hui d'une quinzaine de personnes qui sont des ateliers de taille intermédiaire pour absorber cette production. Et si nos volumes sont amenés à augmenter de façon forte, eh bien on ira solliciter l'écosystème de Romans et tous ces ateliers pour accompagner notre croissance.
Alors, on a quelques-uns de vos modèles, ouais, hein, qui sont ici avec nous sur Europe1.fr. Vous pouvez évidemment les voir si vous nous suivez. Et il y a aussi une basket qui est là.
Oui, alors c'est la dernière année. On l'a lancée hier soir,
ouais,
sur la plateforme de financement participatif Ulule. En fait, pour chacune de ces baskets, vous pouvez choisir la couleur de la tige, donc le cuir principal. Et ensuite, vous pouvez personnaliser l'arrière et les côtés dans les choix de cuir que vous souhaitez.
Et donc c'est vrai campagne de financement.
Voilà,
en
qui a démarré
moment.
Hier soir sur Ulule. Vous pouvez retrouver ça sur notre site internet unsibopa.fr ou sur Ulule dans la rubrique mode et design. Et si vous avez envie de soutenir nos artisans et ce projet, bah vous pouvez les acheter en pré-vente à un tarif préférentiel.
Vous avez tout à l'heure évoqué la question des stocks. C'est important. Je me tourne vers Frédéric Mazella. Je suis sûre que ça va l'intéresser. Vous ne générez pas non plus de stock ou de surstock, ce qui est quand même le problème majeur aujourd'hui dans le domaine de la mode.
On a un modèle qui est socialement responsable, parce qu'on produit en France, mais aussi écologiquement responsable. En fait, nous, on stocke chez nos artisans les cuirs, les talons et autres, et on ne produit que ce qui est acheté. Il n'y a aucun gâchis, alors que l'industrie de la mode est le deuxième pollueur. Et donc, on ne produit qu'à la demande. Et c'est la même chose quand on est en boutique. On prête un kit de démonstration et on ne travaille qu'à la commande pour qu'il n'y ait aucun gâchis de matière.
On reste ensemble. On continue à parler chaussures françaises aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h10.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
L'été arrive et l'espadrille fait elle aussi son grand retour à nos pieds. Un Français a décidé de la réinventer. C'est le fondateur de Paillotte. Il est avec nous sur Europe 1 dans un instant. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 et aujourd'hui jusqu'à 14h, nous découvrons ces Français qui font revivre les chaussures bleu, blanc, rouge à l'occasion de l'ouverture de la Cité de la Chaussure à Romans-sur-Isère. Ça s'est déroulé il y a quelques jours, effectivement. C'était le 9 mai dernier. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas à poser vos questions, à réagir si vous-même vous portez les chaussures françaises. Hashtag Europe 1 sur Twitter.
Et dès que les premiers rayons de soleil arrivent, l'un des réflexes que nous avons tous, c'est évidemment d'enlever les chaussettes et de laisser les pieds respirer. Une des grandes stars de nos périodes estivales, vous serez d'accord, c'est l'espadrille, un peu oubliée, c'est vrai, pendant les années 90 et 2000. Eh bien, elle est de retour et de manière très originale. Bonjour Olivier Gély.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes le fondateur de Paillotte et vous êtes basé à Perpignan.
C'est ça, à Perpignan.
Et depuis 2016, vous vous êtes lancé dans l'espadrille. Alors, vous étiez déjà un fan, hein, j'ai envie de dire.
C'est
mais vous avez eu une petite histoire personnelle qui vous a fait dire il faut agir sur l'espadrille et changer les choses.
C'est ça. Mais en fait, moi, j'ai travaillé 10 ans dans le prêt-à-porter. Et un jour, un matin, donc, comme je suis vraiment du Sud, je suis de Perpignan.
Oui, ça s'entend un petit
l'accent.
Peu.
Et du coup, quand je suis allé travailler, comme là-bas, ça fait vraiment partie du patrimoine culturel.
Tout le monde met des espadrilles.
Autant l'été que l'hiver. Je suis parti un matin avec un pied en 41 et l'autre en 43.
Bon.
Et je me suis retrouvé au travail toute la journée. C'était pas top.
Déséquilibré.
Voilà. Et je me suis dit, bon, ce soir, je rentre et je customise mes espadrilles. Et quand je suis rentré, donc j'ai customisé mes espadrilles avec du Posca, vraiment des stylos, du feutre, vraiment plein de choses. Et en fait, le lendemain, quand je suis allé travailler avec ces espadrilles, tout le monde m'a demandé, mais où c'est que tu as acheté ces espadrilles, tout ça. Et c'est là où tout le monde a commencé à me dire « Je voudrais, tu peux m'en faire une paire, une deuxième paire ?» J'ai commencé à en faire 20, 30, 40, 50, 60. J'ai dit « Bon, on va quand même aller voir sur Internet comment on pourrait vraiment fabriquer notre collection. » Et bien sûr, fabriquer français parce que l'espadrille fait partie de notre patrimoine culturel.
Évidemment, évidemment.
Donc voilà.
Vous faites bien de le dire parce qu'il s'en vend quand même un sacré nombre de paires. Hein, 12 millions, je crois, d'espadrilles. Et les trois quarts, elles viennent de Chine.
C'est ça. Il y a 12 millions d'espadrilles.
Alors que c'est français, l'espadrille.
Ben c'est ça, sûrement, parce que je pense qu'en France, il n'y a pas d'usine assez grosse pour répondre à toute la demande de l'étranger. Et déjà, 12 millions d'espadrilles vendues en France, il y a 9 millions qui arrivent de Chine. Sachant que nous, en l'espace de 3 ans, on est arrivé à vendre 90 000 paires.
90 000 paires, oui.
Je pense qu'il y a de belles choses à faire. Il y a une belle aventure à continuer. Et donc,
Les premières, vous avez quand même été obligé, pour pouvoir les fabriquer, de vendre votre voiture.
C'est ça. L'idée m'est venue. Donc, du coup, je me suis dit comment je pourrais faire. J'avais pas d'argent, j'avais pas tout de côté. J'ai vendu ma voiture et je me suis dit, au pire, j'aurais des espadrilles toute ma vie. Donc, j'ai vendu ma voiture et j'ai commencé à vendre dans des galeries. Je devais faire dans les galeries marchandes, je devais faire un petit stand. Seulement, en commençant à raconter mon histoire sur les réseaux sociaux, j'ai le patron d'un supermarché qui m'a contacté en me disant que ça l'intéressait, que la communication était sympa, c'était fabriqué français. Il m'a acheté tout mon stock.
Donc, vous avez maintenant votre fabrication qui est faite à Mauléon.
C'est ça.
Ça donne du travail aussi à l'usine.
C'est ça. Ils ont embauché 4 personnes de plus depuis qu'on a commencé à fabriquer là-bas. Donc, parce que la cadence s'est élevée. Donc, nous, on a commencé avec 5000 paires. Et là, aujourd'hui, on est presque à 90 000 en 3 ans. Donc, ils ont embauché, on a retravaillé la fabrication, plein de postes, parce qu'il y a plusieurs étapes. Donc, on a tout bien retravaillé. Donc, c'est une belle collaboration.
Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, elles sont avec nous, les espadrilles Paillotte. Il y en a même aux couleurs d'Europe 1. Vous les avez fabriquées spécialement pour nous.
C'est ça, spécialement. En plus, sur notre site, vous pouvez broder. Donc, on a fait la personnalisation. Vous pouvez, par exemple, c'est la fête des mères.
Celle-là, on peut les colorier, c'est ça?
C'est ça. On a sorti les espadrilles coloriables.
Ça va vous plaire, Raphaël.
Ah ouais, j'adore le coloriage.
Colorier.
Et alors, vous avez aussi innové parce que vous avez une espadrille recyclée plutôt.
Recyclée, la toile est recyclée.
Oui.
En fait, le but, c'était déjà, comme on le sait de nos jours, c'est vrai que tout ce qui était éco-responsable nous touche tous. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, nous, à notre petite échelle, essayer d'intégrer cette partie sur une de nos espadrilles pour voir comment ça pourrait fonctionner.
Notamment sur le caoutchouc qui est sous l'espadrille.
Alors, non, nous, on a travaillé la toile. Donc,
d'accord,
on s'est mis en collaboration avec Sequal, qui est sur Madrid, et qui fait de la collecte de déchets sur les plages et dans les mers. Donc, sachant que la Méditerranée est la mer la plus polluée du monde. Donc, on s'est dit, ça serait une belle action si on se mettait avec eux. Et du coup, ils trient, ils classent et ils recyclent. Donc,
Que dit notre coach de l'aventure Payotte?
Moi j'adore. Puis remplacer une voiture par y aller en espadrille, ça montre bien l'esprit entrepreneurial, donc c'est parfait. Je me demande qui d'autre sur la planète met des espadrilles à part les Français?
Alors, beaucoup de Japonais.
C'est hyper tendance hein, en ce moment. Il y a un côté un peu mode de l'espadrille.
Après, moi, ça fait que 3 ans que je fais ça. Moi, j'en ai toujours porté. Donc, c'est vrai, dans mon quotidien, c'était vraiment. Voilà, moi, l'hiver, mes parents portent toujours des espadrilles.
Quand on voit les chiffres, 12 millions, ça fait du monde quand même.
Oui.
Avec les Français.
Donc les,
beaucoup aux États-Unis,
les Japonais.
Les États-Unis adorent ça. Les Anglais, qui vendent deux fois plus que nous en France, d'espadrilles.
Donc, c'est 24 millions d'espadrilles en Angleterre.
Vendus en Angleterre.
Ah, donc, c'est pas lié à la météo.
Non, peut-être aux vacances. Peut-être qu'ils partent plus en vacances.
Et puis, il a eu cet hiver, si vous le suivez sur les réseaux et notamment sur LinkedIn, vous le verrez poster des choses assez intéressantes, y compris l'hiver.
Pas l'espadrille en chaussettes, quand même.
Non, on fait les espadrilles vous imprimées de Noël. Donc, du coup, à chaque fois qu'on vendait une paire, on était au salon du Made in France et du coup, ça a bien marché. Surprenant. Donc, vendre des espadrilles en hiver, c'était un beau défi pour nous.
Mais c'est des espadrilles à moumoute ou
non, même pas.
Non, comment ça se passe?
En fait, c'est la communication qui a changé.
Alors, vous avez révolutionné aussi l'espadrille parce que vous avez quand même sorti un parfum.
Il est là.
C'est ça.
Pour parfumer les espadrilles, parce qu'on le sait tous, toutes les personnes qui ont déjà porté au moins une fois une espadrille dans la vie.
Ça sent un peu. Hein.
Voilà. Donc, et ça, c'est formidable.
En fait, l'idée nous est venue, on avait beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Oui, mais moi, je pue des pieds. Alors, oui, je connais la chanson des nuls. Vous voyez, le célèbre.
Que vient de nous rappeler Anissa.
C'est
en espadrille, tu pues des pieds.
Et en fait, on s'est dit, pourquoi pas sortir l'espadrille qui sent bon. Alors, du coup, on s'est rapproché d'un laboratoire qui est sur Montpellier et qui nous a mis au point un spray. On pulvérise sur l'espadrille, donc c'est des microcapsules qui intègrent la toile, et au frottement du pied, ça casse les microcapsules et diffuse une odeur. Et cette odeur, elle est antifrongique, antibactérienne et hydratante. Donc c'est un super laboratoire qui a voulu vraiment travailler avec nous. C'est un super projet.
Et ça marche avec l'espadrille, parce que bon, ça peut servir.
Non, ça peut servir pour tout, mais voilà. Nous, c'est essentiellement avec... Donc je pense que grâce à ce petit produit, je pense qu'il y a des couples qui s'engueuleront un peu moins le soir.
Sortent
tes chaussures, donc voilà.
On reste ensemble et on continue à parler chaussures françaises aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h19.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Et on va prendre de la hauteur et se jucher sur des talons, ce très spéciaux inventé par Lorraine Archambault pour Bettina Vermillon. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 avec jusqu'à 14h une émission aujourd'hui consacrée aux chaussures françaises. Elles sont bleu, blanc, rouge et vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. N'hésitez pas, vos questions, vos réactions, vos témoignages sur Twitter, hashtag Europe 1. On vous écoute également au 3921, le standard d'Europe 1, Raphaël.
Quand on aime les chaussures, c'est vrai qu'on a tendance à les collectionner. Quand on est dans le milieu de la mode, le soulier a une véritable importance pour la silhouette. Ça n'est pas vous, je suppose, Lorraine Archambault qui dirait le contraire. Bonjour.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous avez créé votre marque Bettina Vermillon en 2012, après avoir travaillé chez Courrèges, notamment, sur ces fameux souliers. Quand vous avez attrapé le virus à l'époque, vous avez décidé de continuer une fois que vous partez de Courrèges. Et vous avez dans l'idée qu'un soulier, justement, ça n'est pas simplement un accessoire de mode, c'est aussi quelque chose qu'on utilise.
Voilà, pour moi, c'est... Alors déjà, de formation, moi, je suis designer meuble. Donc, j'ai une approche de l'objet qui est réellement liée à son utilisation. Et c'est vrai que pour moi, le soulier est un accessoire de vie. Un accessoire de vie avec lequel on met une partie de son corps. Et puis, on n'est plus des princesses. Donc, aujourd'hui, on nous demande de gambader dans tous les sens, de galoper. Et il était très important de retrouver ce mouvement qu'on avait sur une paire de souliers. À talons ou pas talons, d'ailleurs. Bon, aujourd'hui, la basket a trouvé cette réponse-là pour le plat. Mm-hmm. Néanmoins... on ne va pas tout terminer en basket, il n'en est pas question, quelque part. Et donc, je me suis penchée sur le talon pour apporter de la stabilité. Et à l'époque, j'ai été chercher un fabricant français qui n'est pas du tout dans le soulier, qui, lui, fait des pièces de Formule 1. Donc, il est à 800 mètres du circuit du Mans, l'histoire est assez belle. Et c'est lui qui a usiné mon tout premier talon en aluminium.
En aluminium.
Voilà,
parce
en aluminium.
Parce que c'est votre particularité, le talon
voilà,
en aluminium.
Voilà, l'aluminium est donc une matière, c'est un alliage. Et celui-là est aéronautique, dans le sens où il est dense, léger, stable.
Et c'est ce qui permet justement cette fameuse stabilité. C'est aussi ça qui vous a aidé, cette formation de designer.
Ah oui, moi c'est sûr, j'ai été chercher un accessoire c'est un peu mon pied de chaise en fait, quelque part, là où je me soutiens. Et aujourd'hui, c'est vrai que travailler sur une espadrille ou une paire de baskets, c'est un vrai sujet parce que c'est un peu mou pour moi et j'ai besoin de
solidité.
Ouais, j'ai besoin que on soit un peu qu'on soit un peu tenu, supporté, etc. etc.
Alors, donc, ils sont avec nous, ces fameux talons, ouais. Si vous voulez les voir sur Europe1.fr. Ce qu'il y a de spécifique dans certaines de vos chaussures, celle-ci par exemple, c'est que le talon peut être choisi.
Alors, c'est vrai que ça fait partie de l'histoire de Bettina et de la surprise, un peu la cherry on the cake de notre fameux talon, c'est que on a la possibilité aussi aujourd'hui de proposer à nos clientes de choisir leur talon en live devant. Par exemple, on a fait l'expérience au Bon Marché et devant elles, on montait le talon. C'est-à-dire qu'elles ont mis un petit peu leur grain de sel dans leur paire. Elles ont choisi le design, la couleur, la hauteur.
Personnalisation là aussi.
Voilà, exactement. Et elles faisaient une petite séance de fitting pour essayer la pointure. Et suite à ça, on montait devant elles la paire et elles repartaient avec leurs souliers. Et ce qui a été assez fort, parce que nous, c'était la première fois qu'on arrivait au Bon Marché à ce moment-là, ce qui a été assez fort, c'est que la transformation du moment, en fait, il n'y a pas eu d'hésitation. Les résultats ont été très clairs et très lisibles. Et elles ont même été encore plus loin. Elles voulaient repartir avec deux paires de talons pour une paire de souliers. Elles voulaient même mettre un talon gauche bleu et un talon droit argent. En fait, elles ont adhéré complètement à l'histoire. Et ça, c'est vraiment les petites, je pense que vous êtes d'accord, les petites histoires d'entrepreneurs.
Tout à fait.
On s'y attend pas au début. Et puis tout à coup, on commence à rentrer dans un truc qu'on maîtrise plus forcément, mais qui est hyper intéressant.
Voilà. Que dit notre coach Frédéric Mazella ?
Alors, comment on fait pour, quelque part, protéger un petit peu cette innovation ?
On fait un brevet. Alors, il y a deux brevets pour le talon aluminium. Mm-hmm. Il y en a un pour la partie montage et puis il y en a pour
talon
la partie...
Talon 57 facettes,
c'est ça ? Alors, le talon facette, oui, exactement. Ouais, tout à
ça
fait.
Ça a été le premier, hein,
ça a été le tout premier. Et je me suis dit, à partir du moment où il arrive à faire ça, on peut aller bien plus loin. Après, les talons sont envoyés en Italie, près de Milan, pour la partie anodisation, qui est une technique industrielle qui protège l'aluminium de la corrosion, de l'humidité, etc. Et ensuite, on les envoie dans la région des Marquets, au sud de Bologne, qui est un vrai vivier de fabrication.
Avec 35 étapes, c'est ça ?
Oui, une fabrication de souliers à 35 étapes. Ouais. Il y a 15 sous-traitants. Quoi. C'est assez complexe.
Et vous n'avez
complexe.
Pas trouvé l'équivalent ici en France ?
En fait, c'est plus
le soulier
c'est plus,
femme,
alors, la France est très connue. La France est très connue pour le soulier homme. Parce qu'on a au départ la matière, le box, etc. Mais le vrai chevreau, il est au départ italien, c'est lié au climat. On pourrait aujourd'hui importer du chevreau, mais c'est vrai que ça a permis de garder tout le terroir de fabrication industrielle en Italie. Donc il y a beaucoup de possibilités là-bas. Voilà.
Frédéric ?
Oui, et est-ce que, justement, parce que la vraie innovation, effectivement, c'est le talon aluminium, mais donc vous fabriquez le talon, mais vous fabriquez aussi les chaussures.
Ah oui.
Est-ce qu'à terme, vous ne voulez pas juste faire du talon et puis donner vos talons, quelque part, les revendre à tous les gens qui veulent des talons peut-être garantis à vie, tous les fabricants de chaussures, de manière à étendre et ouais. vous concentrez vraiment sur la grande valeur ajoutée et l'innovation
alors
que vous avez sur votre talon.
C'est vrai que notre talon n'a pas de durée de vie. Je pense que toutes les femmes ici, vous avez déjà vécu ces talons qui sont abîmés par le cuir, où la stabilité n'est pas certaine. Mm-hmm. Donc moi, c'est vrai que comme tout est dans la masse, il y a un seul corps qui vient se lever sur le soulier et on est parfaitement maintenu. Et
donc
ça, c'est
garanti à vie.
Ouais,
mais
exactement.
Ça, c'est peut-être ça votre marque.
C'est notre expertise aujourd'hui.
Le talon garanti à vie et puis vous le vendez à toutes les marques qui fabriquent des chaussures.
Alors on peut faire ça. On va faire en plusieurs étapes pour faire attention un petit peu à qui nous sommes. Moi, c'est vrai que je suis aussi une designer.
Oui.
Donc je pense que vous avez été voir sur notre site, etc.
Il y a de très beaux modèles, il y a de la création, de la créativité. Oui.
Pour l'instant, je ne veux pas être Madame Talon, j'aime bien être Madame Soulier. Voilà.
Soulier, hein, c'est, vous précisez
oui,
bien.
Oui, parce qu'il y a une petite, vous avez vu, j'ai un détail, j'aime bien les détails de matière, etc., etc. On va voir après, mais vous savez, quand on innove comme ça, et je pense qu'on a tous il faut respecter le temps de la réalisation. Et voilà.
Alors, on va nous respecter le temps imparti. Et j'ai mon horloge de l'autre côté de la vitre, c'est Thomas. On se retrouve dans quelques instants.
Il est 13h28.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Avec vous aussi, 39-21 évidemment. Le prix, la qualité, le lieu de fabrication. Qu'est-ce qui vous incite à choisir une paire plutôt qu'une autre ? On vous attend avec vos questions à nos invités. À tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 jusqu'à 14h avec Raphaël Duchemin et ses invités. Vous pouvez bien sûr réagir à cette émission. Aujourd'hui, nous parlons de la chaussure française. Venez nous dire comment vous choisissez vos chaussures. Faites-vous attention à leur provenance. Vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Europe 1 pour Twitter. 39-21, ça c'est le standard. 50 centimes la minute, Raphaël.
Oui, effectivement. Et vous avez peut-être vu derrière Anissa passer... Frédéric, qui était très intrigué par les talons de...
Je voulais voir comment ça se
fixe. De Lorraine Archambault, fondatrice de Bettina Vermillon, qui est avec nous, d'Olivier Gély, fondateur de Payotte, qui fabrique des espadrilles. Et Antoine Focard est également avec nous dans le studio d'Europe 1, fondateur d'un Cibopat, toujours à mes côtés. Évidemment, Elisabeth Assayag, on se disait que votre point commun, finalement, c'est cette fameuse personnalisation, cette différenciation qui fait qu'on a un produit qu'on aime, mais qui n'est pas tout à fait... le même que celui du voisin, finalement. Olivier.
C'est ça. Bah, le but principal, c'était vraiment de donner un coup de fraîcheur et de casser les codes de cette espadrille qui était vraiment traditionnelle, qui n'était peut-être pas mis au placard, mais voilà. Donc après, moi, je voulais vraiment donner une personnalité, vraiment donner ce petit plus qui me correspond, déjà au départ. Donc, puis raconter mon histoire tous les jours, vraiment...
Oui, vous faites une story hein, d'ailleurs sur les réseaux.
C'est ça.
Vous mettez en scène les choses. C'est la même chose pour vous, Antoine.
En fait, nous, quand on a pris la décision de rapatrier en France, on sait que produire en France, ça coûte plus cher. Donc si on fait de la série, et si c'est pour faire pareil qu'au Portugal ou en Chine, on ne peut pas être compétitif en termes de prix.
Ça veut dire que la sandale, par exemple, qui est avec vous, là, elle coûte combien ?
Là, une sandale plate, on est autour de 100 euros, et sur nos escarpins, autour de 180 euros. Donc après, la question, c'est comment on peut apporter un service qui permettent vraiment d'avoir un produit unique, en effet, et de faire en sorte que ça ressemblera à aucun autre.
Donc, c'est nous, c'est on plus a résistant une chaussure service. Française aujourd'hui. Pardon. C'est quelque chose de plus résistant une chaussure française
Alors,
aujourd'hui.
Ça va dépendre aussi de la qualité des matériaux, mais ce qui est sûr, c'est qu'on a des artisans qui sont extrêmement qualifiés en France aujourd'hui pour vous faire une chaussure qui va être plus durable, ça c'est certain, de meilleure qualité, avec un meilleur chaussant aussi. Nous, on a une mousse à mémoire de forme dans la semelle. Mm-hmm. Et donc, tous ces éléments combinés, ça apporte une vraie valeur ajoutée. Et l'objectif, c'est de consommer moins, mais mieux.
Lorraine Archambault, même démarche pour vous, cette personnalisation avec ce talon si particulier. Est-ce que vous pourriez demain envisager de revenir rapatrier tout ce savoir-faire en France ? Ou c'est quelque chose qui n'existait pas, qui n'était pas possible en 2012, mais est-ce que ça l'est aujourd'hui ?
Ah oui, ça a été en 2012. Moi, j'ai été à Romans, j'ai été à Cholet, j'ai été à Fougères, j'ai fait le tour.
Oui.
Je me suis rendu compte que c'est vrai qu'ils avaient...
L'écosystème n'existait plus.
Ils n'arrivaient plus à travailler ensemble parce qu'ils se... Voilà, et puis on a tellement de... Vous savez, monter une paire de souliers, c'est il y a un travail de main et de savoir-faire. C'est un des rares métiers aujourd'hui qui se transmet. Plus on est âgé, plus on est valorisé, entre guillemets. Et c'est vrai que quand on n'a plus les mêmes manières de monter, etc., etc., il n'y avait plus ça. En revanche, je rêverais de fabriquer plus en France. Je suis ravie de cette ouverture à Romans-sur-Isère de la Cité de la Chaussure. C'est un lieu qui va forcément générer des choses. Et puis, pourquoi pas, oui, en effet, accéder à des nouveaux partenaires, bien sûr.
On a des messages, Anissa ?
Oui, alors il y a Jean-Marc qui nous dit « Jamais sans mes Mephisto fabriqués chez moi en Moselle, on marche diablement bien avec. » Marc a une question pour vous trois. Comment mettre en avant le Made in France sur des chaussures quand la concurrence de la Chine est si agressive, notamment avec la politique des prix bas ?
Je crois qu'on a la réponse, non ? Qualité, il me semble, et personnalisation.
Qualité et service. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, il faut, en effet, qualitativement, il faut être capable de proposer des standards qui soient bien plus élevés. Et puis ensuite, de proposer par de l'innovation sur un talon, par de l'innovation dans le design. Nous, c'est sur la personnalisation et cette production unique. Mais c'est, je pense que le service aussi clé pour se différencier de ces marchés à bas prix.
Elisabeth, je voudrais qu'on termine juste en citant deux autres marques qui se différencient.
Oui,
Crespin notamment et Bocage, parce qu'elles ont des spécificités.
Chacun, oui. Alors, il y a Crespin, c'est une marque de chaussures haut de gamme pour hommes. Haut de gamme, c'est-à-dire qu'on peut comparer avec des Weston, par exemple, hein, qui coûtent entre 600 et 900 euros. Là, c'est une marque de chaussures qui se focalise pour pouvoir perdurer sur la vente en ligne. Pour faire revivre le savoir-faire français de la chaussure de qualité, particulier. Ils ont deux catégories de cuir, des cuirs velours et des cuirs de veau. Et là, donc, leur modèle de distribution, c'est que tous les produits sont vendus sur le site web de l'entreprise, sans intermédiaire, de façon à pouvoir vendre des chaussures de très bonne qualité, beaucoup moins chères. Vous avez aussi Bocage, qui, pour se diversifier, mise sur la location de chaussures. Ça s'appelle l'atelier Bocage. Vous pouvez bénéficier d'une paire de chaussures neuves tous les deux mois, moyennant un abonnement de 29 euros par mois. Les chaussures à porter sont ensuite reconditionnées dans une usine de Maugent-sur-Loire. Et puis l'objectif, eh bien, c'est d'être mise de nouveau dans le circuit de location pour leur offrir une seconde vie.
Je vous le disais, la chaussure est en train de se réinventer ici, chez nous en France, grâce à vous notamment. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui sur Europe 1.
Il est 13h36.
Europe 1, Raphaël Duchemin.
Elle est née à Chambéry, s'est singularisée en faisant du vermouth depuis 1821. Dolin et l'entreprise qui va bien. Merci, à tout de suite.
La France bouge sur Europe 1. Raphaël Duchemin, chaque jour, vous nous faites vivre la belle aventure d'une entreprise française qui va bien. Et aujourd'hui, on passe à l'apéritif.
Oui, cette entreprise, elle existe, figurez-vous, depuis 1821. C'est d'ailleurs écrit dessus. Bonjour Pierre-Olivier Rousseau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous dirigez Dolin depuis 2016. Dolin qui est une très vieille dame, hein, je le disais, puisque c'est un savoir-faire qui nous vient des Alpes et qui a été inventé par un distillateur à l'époque et qui a eu envie de créer du vermouth. Alors, il y a peut-être des gens ici qui ne savent pas ce que c'est que le vermouth. On va peut-être commencer par ça.
Oui, un vermouth est donc un apéritif, hein, du latin apérere, ouvrir l'appétit, donc qui a été créé par un certain monsieur Chavas à Chambéry en 1821, puisqu'à l'époque, Chambéry n'était pas française.
Italienne.
Italienne, faisait partie du Piémont-Sardaigne. Et donc, il est allé voir ses confrères botanistes apothicaires à Turin. Ces gens-là ont inventé le vermouth en 1786.
À base de plantes cueillies dans les alpages.
Oui. Donc c'est à base de vin, de plantes et d'épices des Alpes, dans lequel on va ajouter de l'alcool.
Avec une recette qui est inchangée depuis 1821.
Oui, tout à fait.
Et qui est toujours tenue secrète. La recette est donc la même. Les familles, elles, ont un peu changé parce qu'il y a la famille Dolin. Et puis, il y a celle à laquelle vous appartenez, la famille Sevez, qui est arrivée beaucoup plus tard. Entre-temps, il y a eu une personne, j'ai envie de dire, qui a été très importante, c'est Marie. Marie qui a transporté le produit à l'extérieur de la France et qui l'a fait connaître à l'international en gagnant notamment des concours, notamment du côté de Philadelphie.
Marie Dolin, effectivement, a succédé à son grand-père. Dans les années 1840, elle a développé d'autres produits que le vermouth, notamment les sirops Marie Dolin. Et puis, elle a surtout aidé l'entreprise
à
se faire connaître à l'international. Elle a gagné une médaille d'or à Philadelphie en 1876, médaille que vous avez ici en studio.
Elles sont avec nous, ces médailles, hein,
chose
si vous
de
les voyez sur europe1.fr.
Et donc, elle a participé au développement de Dolin et du vermouth dans de très, très nombreux cocktails.
Aujourd'hui, cette boisson, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Elle est utilisée, elle est bue de manière fréquente ou c'est plutôt un produit de connaisseurs, notamment dans les bars de spécialité pour la mixologie?
La chance que l'on a sur le vermouth, c'est que en fait, 60% ou 50% de tous les cocktails vont contenir un des trois vermouths, blanc, dry ou rouge. Si on était des fabricants d'anis ou d'absinthe, on n'aurait peut-être pas la même réussite parce que les meilleurs cocktails dans le monde, comme le Negroni, comme le Spritz, comme le Martini Dry, la célèbre boisson de James Bond, qui est un cocktail, sont faits avec un des ingrédients qui est le vermouth.
2 millions de bouteilles fabriquées, c'est ça chez vous?
À peu près.
À peu près. Vous êtes aussi revenu en arrière sur les étiquettes, sur la présentation. Finalement, vous vous êtes rapproché de ce qui se faisait au départ. C'est ça qui plaît aujourd'hui?
Exactement. On a eu la chance, il y a une dizaine d'années, d'être contacté par un importateur américain qui nous a dit « Vous avez l'histoire, vous êtes l'inventeur du vermouth de Chambéry, vous avez le terroir ». Par contre, on peut retravailler un petit peu le packaging pour un esprit un petit peu vintage. Et on a retrouvé des vieilles étiquettes que l'on a adaptées un petit peu et modernisées.
Que dit notre coach de cette aventure et de cette histoire vermouth Dolin?
Je pense déjà que quand on a inventé la boisson de James Bond, on peut... On peut se dire qu'on a fait quelque chose. Non, comment vous faites pour ne pas être copié? Ou peut-être que vous êtes copié mais jamais égalé. Enfin, comment vous faites pour ne jamais être égalé alors ?
Alors la recette est unique, je pense que chaque vermoutier, il y a eu beaucoup de vermoutiers en France, hein, en Savoie aussi, de nombreux vermoutiers. La recette est unique, un petit peu comme nos confrères moines d'une montagne, d'une montagne très proche de chez nous. Je pense qu'aujourd'hui le consommateur, il va rechercher...
Parler de la chartreuse, je suppose.
Par exemple, je pense que le consommateur aujourd'hui, et notamment les barmans, les mixologues, qui sont quand même l'équivalent de chef étoilé, donc ils vont chercher les meilleurs ingrédients possibles pour composer les meilleurs cocktails possibles. Donc le vermouth est un ingrédient, notre vermouth a une recette effectivement particulière. Je pense qu'aussi l'attrait de l'entreprise familiale, historique, où il y a un vrai marketing, enfin qui est une vraie histoire, doivent leur plaire.
La suite c'est quoi ?
La suite, c'est de conserver l'entreprise dans la famille, de développer nos produits. Aujourd'hui, on est 20 employés uniquement, hein, 20 salariés, pour fabriquer ces produits. Et on est présent dans 70 pays. Donc, continuez comme ça.
Continuez à écrire l'histoire de Dolin, créée dans les Alpes en 1821, avec cette recette de vermouth. C'est l'entreprise qui va bien. Merci d'être venu nous en
Merci
parler aujourd'hui
vous.
Sur Europe 1.
Il est 13h47.
Europe 1. Raphaël Duchemin.
Donner les clés de l'apprentissage numérique à nos enfants, c'est possible. La solution s'appelle School. A tout de suite.
La France bouge sur Europe 1 tous les jours avec Raphaël Duchemin et ses invités. Et juste avant 14h, Raphaël, vous nous proposez chaque jour la solution du jour. Aujourd'hui, elle est numérique et elle concerne l'éducation.
Comment donner aux enfants les clés de l'apprentissage numérique ? Une solution tout en un avec la tablette School, Elisabeth, un écosystème numérique dédié justement à l'éducation.
Oui, cette tablette tactile est conçue pour être adaptée à la vie quotidienne des élèves. Par exemple, une élève de 7 ans qui s'entraîne à la lecture peut enregistrer toute seule sa lecture sur la tablette tactile. Elle l'envoie à la maîtresse pour qu'elle voie où en est son apprentissage de la lecture. La maîtresse reçoit via un logiciel le rendu de cet élève. Chaque tablette permet un apprentissage interactif. L'enseignant, lui aussi, pour lui, c'est utile parce qu'il peut préparer son cours en assemblant tous les supports sur la tablette, en terminer les polycopiés, les transparents. Là, il envoie le contenu sur la tablette aux élèves et il peut alors superviser leur travail. Bonjour Jean-Yves Hepp.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur de cette tablette, hein, de cette solution School. Vous êtes le roi de la tablette puisque vous avez commencé avec une tablette autour des recettes de cuisine qui s'appelle toujours Cook. Et là, vous vous êtes lancé dans les tablettes éducatives. Cette tablette est destinée aux élèves du primaire et des collèges, c'est ça ?
Oui, alors en fait, on a conçu tout un écosystème qui va vraiment de la maternelle jusqu'au baccalauréat. Donc on est capable d'accompagner les enfants durant toute leur vie jusqu'au baccalauréat.
Alors comment ça se passe ? Vous vendez cette tablette aux particuliers, aux écoles ?
Alors en France, on a un système un peu particulier, c'est que les collectivités locales achètent en fonction du niveau scolaire. C'est-à-dire que les villes achètent pour les écoles, les départements achètent pour les collèges et les régions achètent pour les lycées.
Donc, ce sont des marchés publics.
Ce sont des
que
marchés
vous sollicitez.
Publics. Voilà, donc il y a des appels d'offres publics ou alors une centrale d'achat de l'État qui permet aux collectivités d'aller acquérir des systèmes numériques pour les écoles.
Alors, qu'ont-elles de si particulier ces tablettes ?
Alors, d'abord, la première chose, on est effectivement l'inventeur de la tablette puisque notre tablette est sortie 7 mois avant l'iPad.
Elle est avec nous hein, si voilà. Vous voulez la voir sur voilà, Europe 1.fr.
On a sorti la tablette Cook qui a connu son heure de gloire avec Oprah Winfrey qui a dit que c'était le produit dont elle se séparait jamais. Et puis, il y a 7 ans, on s'est lancé dans l'aventure de la transmission numérique des savoirs. Avec l'éducation nationale, on a fait 3 ans de R&D pour inventer ce qu'allait être le numérique pour l'école.
Recherche et développement.
Voilà, donc 3 ans de recherche et développement. Où on a travaillé sur qu'est-ce qui se passe avant la classe, pendant la classe et après la classe. Donc on a eu la chance de travailler avec 8500 enfants, 350 enseignants, 17 collèges, le département, l'académie, pour inventer ce que le numérique allait pouvoir changer dans les apprentissages au quotidien.
Et qu'est-ce qui change dans le quotidien, là, depuis que vous avez vendu vos tablettes aux différentes écoles ?
Alors, le plus gros changement pour moi, c'est ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. C'est-à-dire, c'est la capacité à comprendre que dans une d'une classe, quand on veut maintenir le creuset social, eh ben, il y a des enfants de niveaux très différents. C'est-à-dire qu'il y a des enfants en difficulté, il y a des enfants précoces, il y a des enfants moyens et puis d'autres qui sont plus bons élèves. L'éducation nationale, c'est traiter ceux du milieu, pas du tout les précoces, pas du tout les enfants en difficulté. Le gros changement du numérique, c'est de comprendre que les rythmes d'apprentissage n'étant pas les mêmes, eh bien, on va donner des temps différents aux enfants pour apprendre, tout en les maintenant dans cette classe qu'est le creuset social si important à la société française.
Le coach, Frédéric.
Je voulais savoir, par rapport à la société elle-même, est-ce que vous focalisez plutôt, le hardware, c'est vous aussi, vous faites le software, vous faites les deux, et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser des tablettes normales quelque part, des tablettes extrêmement commercialisées,
classiques,
pour faire un petit peu la même chose, puisqu'au final, dans tout ce que vous présentez, que ce soit avant, pendant, après la classe, c'est un service, c'est un produit qui est conceptuellement intellectuel, on va dire, et pas forcément, qui peut peut-être s'adapter à plusieurs supports. Donc pourquoi est-ce que vous faites tout? Est-ce que c'est par nécessité? Et puis ça me fait un petit peu penser aussi, quand vous parlez des temps d'apprentissage, ça fait un petit peu penser au mouvement Montessori, par rapport justement au fait qu'on peut, et on doit apprendre quand on en a envie, et c'est bien un meilleur pour retenir.
Jean-Yves Vep.
Alors, plusieurs réponses à ça. La première, elle est liée au marché public. Les marchés publics sont des marchés de matériel. Donc aujourd'hui, si vous voulez être dans la course, eh bien, vous devez avoir du matériel. Face à nous, les GAFAM, bientôt les Chinois. Donc aujourd'hui, si vous voulez exister dans l'école de la République, il faut avoir également le matériel. Donc notre solution aujourd'hui, elle a quatre éléments. Le hardware, qui a la particularité d'être assemblé en France. Donc il me paraissait important de maintenir...
À Angers, je crois, c'est
à
ça.
À Angers, chez Bull, donc un ancien grand du hardware. Et donc aujourd'hui, pour répondre, il faut avoir ce matériel. Deuxièmement, effectivement, toute la dimension logicielle. Celle qui va permettre justement de gérer ce avant, pendant, après. Ensuite, élément très très important, et vous êtes bien placé Frédéric pour le savoir, c'est le cloud. C'est-à-dire où est-ce qu'on va mettre les productions des enfants, les productions des professeurs, où va-t-on stocker les données qui se fabriquent en même temps que l'enfant travaille. Nous, on a choisi de le faire en France, et donc pour ça, il faut aussi maîtriser le matériel. Donc on stocke tout ça chez Atos, en France, dans le Nord, de façon à ce qu'il n'y ait pas des mauvais usages de tout ça.
Ça s'appelle School.
Ça s'appelle School.
S-Q-O-O-L. C'est la solution d'aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Frédéric qui était notre coach. On se retrouve demain.
À demain, Raphaël.